Aujourd'hui, c'est le premier dimanche de septembre. C'est, on peut dire, un peu la rentrée, n'est-ce pas? La plupart ont repris le travail, enfin, presque tout le monde. Il y a quelques privilégiés qui vont encore attendre quelques jours. La plupart des enfants ont repris l'école, sauf, encore une fois, quelques. C'est cette semaine ça va se passer. Voilà, bah, on reprend les activités normales. Et bah, voilà, un bon moment, en fait, d'entamer une nouvelle série. Donc, cette série va nous prendre un certain temps, puisque nous allons commencer à examiner en détail l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, qui a beaucoup de choses à nous enseigner. Cet évangile qui va exposer la vie de Jésus, sa personne, son œuvre. Et vous allez peut-être me dire, mais Robert, l'évangile, la bonne nouvelle, Jésus-Christ, on connaît, on sait ce qu'il a fait, on sait ce qu'il a dit. Oui, peut-être bien. Il est possible que, bah, il y en a certains qui ne connaissent pas trop. Et même si on connaissait jusque dans les moindres détails tous les aspects de la vie de Jésus, tels qu'ils sont exposés dans les évangiles, bah, est-ce qu'il est vrai qu'à chaque moment, bah, nous les mettons en pratique? Parce que la vie de Jésus est censée nous servir d'exemple. Et qui ici peut dire ma vie ressemble parfaitement à Jésus? Moi, je ne peux pas le dire. À mon avis, vous ne pouvez pas le faire non plus. Alors, il y a du progrès à faire, n'est-ce pas? Et justement, à travers l'évangile de Jean, que nous allons examiner pendant un bon moment, sûrement jusqu'au printemps prochain, eh ben, nous allons à la découverte de Jésus. Parce que beaucoup de choses se disent sur Jésus, sa personne, tout ce qu'il a fait, sur le personnage historique qui a bel et bien existé. Mais que dit la Bible? Que dit cet évangile qui est un peu particulier? Matthieu, Marc, Luc, vous le savez peut-être, se ressemblent pas mal. Mais Jean, il est un peu à part et va nous apporter des éléments supplémentaires qui vont bien nous permettre de comprendre qui est Jésus et quelles décisions, quels changements nous devons apporter dans notre vie. Alors, contrairement à ce que vous pourrez croire, nous allons commencer par la fin de l'évangile. Alors, allez avec moi, tout d'abord dans Jean chapitre 20. Jean chapitre 20. Puisque finalement, Jean, il va attendre pratiquement la fin de son livre pour nous expliquer pourquoi il a écrit. Parfois, certains auteurs, ils disent dès le départ, dans les premières phrases, voilà, j'écris ce livre, j'écris ceci pour telle ou telle raison. Et Jean, lui, il va attendre la fin. Et dans Jean chapitre 20, versets 30 et 31, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans ce livre. Alors, Jean explique clairement que son récit n'est pas exhaustif. Il aurait pu écrire bien d'autres choses, même un peu plus loin, il va dire, si on les écrivait tous, bah, le monde entier ne pourrait pas contenir tous les livres qu'on écrirait. Mais Jean a ciblé certains événements, et verset 31, mais ces choses, donc tout ce qui est dans l'évangile de Jean, voici le but. Jean dit, j'ai choisi ces éléments, je les ai écrits pour vous, les gens de son époque, pour nous aujourd'hui. Ces choses ont été écrites afin que, donc là le but, prêtons bien attention, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. La conclusion à laquelle nous devons tous arriver à la fin de cet évangile, cette bonne nouvelle, cet exposé de la vie de Jésus, c'est que Jésus, il est l'envoyé de Dieu, mais il est Dieu lui-même. Et nous allons voir ça dans un instant. Afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et, donc il n'a pas terminé, en croyant, vous ayez la vie en son nom. Voilà le but. L'évangile de Jean n'est pas censé tout simplement nous transmettre un ensemble de données sur Jésus pour qu'on puisse dire « Ah, là, je suis expert en ce qui concerne le personnage de Jésus ». Non, 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 non. Nous allons apprendre un ensemble de choses sur Jésus, sur sa vie, sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il a dit. Mais tel n'est pas le but. Le but de Jean, c'est la foi. C'est de croire. Et croire, c'est bien plus qu'accepter un ensemble de données. Puisque aujourd'hui, beaucoup de gens vont dire « Ah, je crois en Dieu ». Beaucoup de gens vont dire même « Je crois en Jésus ». Mais ce qu'ils veulent dire par cela, c'est tout simplement « Ben, je sais qu'il existe ». Je sais que peut-être Jésus a existé, qu'il a enseigné pas mal de choses, qu'il a fait du bien, mais sans plus. Et ça, ce n'est pas ce que Jean veut dire ici. Non, Jean, quand il va dire pour que nous croyions en lui, eh ben, c'est que oui, on accepte, mais c'est cette idée de confiance. C'est cette idée de dépendance. Mais dépendance dans le bon sens. Souvent, on parle de dépendance comme pour des drogues, l'alcool, autre chose. Mais là, dépendance, d'être dépendant, totalement dépendant sur Jésus. Et Jean va écrire tout son évangile pour stimuler ses lecteurs, les auditeurs de ce livre, à croire, placer leur confiance tout entière en Jésus. Et puis, le résultat de cela, c'est un changement. Puisqu'il parle d'avoir la vie en son nom. Vous avez remarqué que deux des chants ce matin que nous avons chantés parlaient du nom de Jésus. Hein? Ce n'est pas le hasard. Hein? Vous savez, le déroulement du culte, il est préparé. Donc voilà. Ici, la vie en son nom, c'est-à-dire un changement. Paul, lui, dans les Épîtres, va parler de passer de la mort à la vie. Nous étions morts dans notre péché, dans nos offenses, et quand nous acceptons Jésus-Christ comme notre Sauveur, nous passons à la vie. Nous passons des ténèbres à la lumière. Jean, lui, il va aussi parler de la lumière, dans un passage que nous allons voir dans un instant. Et ici, Jean dit que cette croyance, cette confiance, cette dépendance sur Jésus apporte la vie. Et tout de suite, il faut se poser la question, mais est-ce que c'est quelque chose que moi j'ai expérimenté? Est-ce que à un moment donné, en comprenant qui est Jésus, en comprenant ce qu'il a fait, est-ce que j'ai placé ma confiance en Jésus pour le salut? De passer des ténèbres à la lumière, de passer de la mort à la vie, de passer du royaume des ténèbres au royaume glorieux de la lumière du Fils de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Jean a tout écrit ici afin de pousser, convaincre de la façon la plus convaincante ses lecteurs à placer leur foi en Jésus. Et est-ce que nous l'avons fait? Et si nous l'avons fait, est-ce que ce changement, il est évident? Vous savez, il est assez facile, je trouve, de faire la différence entre quelqu'un qui est vivant et quelqu'un qui est mort. Souvent, on n'a pas besoin de réfléchir beaucoup pour dire « Ah, est-ce que cette personne est vivante ou pas ?» Sauf si la personne dort, et là, un peu plus difficile. On regarde, est-ce que la personne respire, est-ce qu'il y a la poitrine qui monte un peu et qui descend. Mais la plupart du temps, on n'a pas besoin de se poser la question, est-ce que cette personne, elle est vivante ou elle est morte. Souvent, c'est évident. Hein? Vous tous qui êtes là ce matin, laissez-moi regarder. Oui, vous êtes tous vivants, hein? Physiquement. Mais dans le domaine spirituel, ceci doit être d'autant plus évident. Si vous dites que vous êtes enfant de Dieu, et je prie que chacun ici soit dans cette catégorie, il doit être évident dans votre vie, tout comme dans la mienne, que nous sommes vivants pour Dieu. Ça, c'est la normale. Ici, que vous ayez la vie en son nom. Jésus, il va dire dans Jean chapitre 10, « Je suis venu apporter la vie à mes brebis, pour que mes brebis ils aient la vie et la vie en abondance. » C'est une idée sur laquelle nous allons revenir dans les semaines à venir. Et puis de se poser la question, si j'ai accepté Christ comme mon sauveur, est-ce que je jouis, est-ce que j'expérimente cette vie au jour le jour? Et sinon, pourquoi? Il se peut très bien, c'est parce que je ne suis même pas sauvé. Et là, c'est quelque chose de très grave, et ça, c'est quelque chose qu'il faut régler aujourd'hui. Si on n'est pas sauvé, on a la possibilité de le devenir aujourd'hui. Mais peut-être qu'on est sauvé et qu'on n'expérimente pas au jour le jour cette vie en Jésus-Christ. Et pourquoi? La toute première chose que nous pouvons dire, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas de notre côté. Non pas du côté de Dieu, parce que lui, il a tout fait pour cette vie. Mais si nous ne jouissons pas pleinement de cette vie, c'est parce qu'il y a quelque chose à régler de notre côté. Et c'est là où nous allons revenir dans le premier chapitre de ce livre. Alors, allez avec moi dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, puisque Jean, tout à la fin, il exprime le but de ce livre. Cette confiance, cette dépendance sur Dieu, sur Jésus-Christ plus exactement, la vie en son nom. Mais comment exactement faire cela? Qu'est-ce que cela implique? Et j'aimerais attirer votre attention sur trois mots ce matin. Si vous retenez une chose du message ce matin, j'espère que vous allez retenir plus que ça, mais si vous retenez une chose, essayez de retenir au moins ces trois mots. Alors, dans Jean chapitre 1, les quatre premiers versets, regardez ces versets avec moi, je vais les lire. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Jean, ici, commence son exposé, toute sa discussion, tout ce qu'il veut transmettre à ces chrétiens du premier siècle. Et ceci, c'est le début de son argumentation pour faire comprendre que Jésus, il est Dieu, qu'il est l'envoyé de Dieu. Il est celui que Dieu a préparé pour accomplir la mission pour laquelle il l'a envoyé. Et que c'est en cette personne-là, Jésus-Christ, qu'il faut placer entièrement sa confiance pour le salut. Et lorsqu'on le fait, on a la vie. Et c'est quelque chose qui doit intervenir à un moment donné. Cette vie en Jésus, on l'a ou on ne l'a pas. Il y a un moment où on ne l'a pas, et puis on passe de la mort à la vie. On n'est pas né avec cette vie, malheureusement. On est né dans la mort, mort spirituelle, entendons-nous bien. Et Jésus, quelques chapitres plus loin, dans son entretien avec Nicodème, que vous connaissez peut-être, il va dire, il faut naître de nouveau. La naissance, c'est quelque chose qui arrive à un moment donné. Et passer de la mort spirituelle à la vie spirituelle, c'est quelque chose qui arrive à un moment donné. Mais en même temps, c'est quelque chose qui continue au jour le jour. Nous ne pouvons pas dire, je suis sauvé, j'ai cette assurance un jour d'aller au ciel et que maintenant je vis exactement comme je veux, sans faire aucun cas de comment Dieu veut que je vive. Non, 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 ce n'est pas possible et je crois que vous le savez. Mais dans notre vie de tous les jours, les difficultés que nous avons, des problèmes auxquels nous sommes confrontés, la lutte intérieure qui est en nous, des personnes désagréables face auxquelles nous sommes parfois, des personnes qui nous veulent du mal, des personnes qui nous frustrent, des situations que nous ne contrôlons pas, toutes sortes de choses peuvent venir et nous déranger dans la vie, enlever la paix que Dieu veut donner, nous faire basculer un peu dans cet état de mort. Et même si nous sommes vivants pour Dieu, nous pouvons vivre comme si nous sommes morts. Ça semble impensable, ça semble illogique, mais malheureusement, si nous sommes honnêtes, nous pouvons tous dire que nous l'expérimentons parfois. Parfois, on n'a pas envie de faire telle ou telle chose. On n'a pas envie de lire la parole. Ça vous est déjà arrivé? On n'a pas envie de prier. On n'a pas envie de faire ce que Dieu nous demande. On n'a pas envie de témoigner. On n'a pas envie de se rassembler avec d'autres chrétiens. On n'a pas envie. Et là, vous mettez tout ce que vous voulez. Et comment surmonter tout ça? Comment agir comme je veux? Et c'est à ce moment-là où continuellement, nous avons besoin de nous tourner vers Jésus dans chaque situation, chaque jour. Et c'est là où on se pose la question, mais qu'est-ce que Jésus, lui, il peut faire? Alors, voici les trois mots que j'aimerais vous soumettre pour votre réflexion, pour notre réflexion ensemble. Alors, trois mots simples. Alors, premier mot, c'est sagesse. Deuxième mot, c'est puissance. Et troisième mot, c'est direction. Alors, sagesse, puissance et direction. Alors, au verset 1 et 2, regardez. Qu'est-ce que Jésus, lui, il peut faire? Comment est-ce que lui, il peut m'aider au jour le jour? Parce qu'il peut. Regardez, au commencement était la parole. Alors, Jésus, il existe depuis toute éternité. Ici, Jean, il fait écho de Genèse 1, chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Okay. D'où est venu Dieu? La Bible n'essaie pas d'expliquer. Parce que Dieu a toujours existé. Et ici, Jean montre que Jésus, tout comme Dieu dans l'Ancien Testament, Dieu le Père, qui est le même Dieu, lui, il a existé également. Donc Dieu, ce Dieu que les Juifs de l'époque de Jean auraient compris, auraient connu, Jean dit, Jésus, c'est exactement la même chose. Au commencement, Jean n'essaie pas d'expliquer d'où est venu Dieu. On ne peut pas. Qu'est-ce qui était avant Dieu? Dieu. et avant ça? Dieu. Et avant ça? Et vous avez compris. C'est Dieu. Dieu existe depuis toute éternité. Donc, Dieu, Jésus, le Fils de Dieu, était là depuis toute éternité. Ce verset 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Alors, par cette simple phrase, Jean montre très bien que Jésus est identique à Dieu le Père, mais en même temps, il est séparé. Et c'est un des versets qui nous aide à comprendre ce que nous appelons la Trinité, c'est-à-dire Dieu en trois personnes. Alors, je ne vais pas faire un cours de théologie, mais voilà la Trinité, Dieu en trois personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Trois personnes, un seul Dieu. Mon explication n'ira pas au-delà de cela parce que finalement, on n'arrive pas vraiment à le comprendre, mais Dieu dans sa parole l'explique. Jésus est Dieu. Il existe depuis toute éternité et comme nous voyons au verset 2, Jésus était au commencement avec Dieu. Jésus est là. Et parce que Jésus existe depuis toute éternité, parce que aussi il a créé toutes choses, comme nous allons voir dans la suite de ce passage, Jésus est la sagesse même. Et gardez votre droit dans Jean chapitre 1 et allez avec moi dans Proverbes chapitre 3. Proverbes chapitre 3, verset 19. Proverbes chapitre 3, verset 19. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Mais Genèse chapitre 1 dit, Dieu a parlé. Et le monde est venu à l'existence. Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Il y avait ténèbres, Dieu a dit qu'il y ait lumière, il y avait lumière. Mais Proverbe chapitre 3 nous montre que c'est pas la sagesse, l'intelligence. Et là, Jean chapitre 1 nous montre que c'est Jésus. Et c'est là où on comprend que Jésus est sagesse même. Lorsqu'on comprend que Jésus existe depuis toute éternité, on comprend qu'il a déjà tout vu. Il n'y a rien qui puisse passer dans le monde que Jésus n'a pas encore vu. Rien ne peut le surprendre. Rien de ce qui arrive dans votre vie ni dans la mienne ne poussera Jésus à dire « Ah mince, j'avais pas prévu ça. Ah mince, c'est la première fois que je vois ça. Ah, cette situation, elle est particulière. C'est du jamais vu. » Non, non, Jésus ne dira jamais ça. Parce qu'il existe depuis l'éternité passée, il existera jusque dans l'éternité future, et c'est ce Jésus dans lequel nous pouvons, nous devons placer notre confiance. Et lorsque nous sommes devant des situations compliquées, lorsque nous ne savons pas exactement comment agir, à ce moment-là, nous pouvons nous tourner vers Jésus et dire « moi, je ne sais pas. Là, je suis au bout de mes connaissances, de mes expériences. Là, Seigneur, je ne sais vraiment pas quoi faire. Je ne sais pas quoi dire. Mais je sais que toi, tu le sais. » Peu importe. Vous prenez la situation la plus complexe que vous pouvez imaginer. Jésus est capable de nous donner la sagesse nécessaire. Parce que si Jésus était là tout au début, croyez-moi, il n'y a rien dans notre vie qui puisse le surprendre, qui puisse le dépasser, où il dira « Ah non, là c'est un peu trop difficile ». Peu importe, parce que Jésus existe depuis toute éternité, il peut nous apporter la sagesse nécessaire. Et Jacques, lui, il va confirmer cela. On ne prendra pas le temps d'aller voir ce passage, mais vous le connaissez peut-être, ce passage dans Jacques, où Jacques dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, et si vous n'avez jamais manqué de sagesse, je ne demanderai pas de lever la main, parce que la main de tout le monde serait levée. Hein? » On manque tous, à un moment donné, de la sagesse. On ne sait pas comment agir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Écrire sur Internet, « Aidez-moi, je ne sais pas quoi faire !» Prendre le téléphone, « Ah, j'ai besoin de conseils et tout !» Non pas que ces choses soient mauvaises. Et parfois, Dieu nous donne des frères et sœurs pour qu'on puisse chercher conseils et tout. Et cela est tout à fait légitime. Mais quel doit être notre premier réflexe? Prier. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu la donnera. Mais c'est là aussi où intervient cette confiance. Est-ce que nous croyons vraiment que Dieu nous donnera la sagesse? Ou est-ce qu'on va dire, « Ah, ma situation, elle est vraiment particulière, et peut-être Dieu donnera la sagesse à tout le monde, dans toutes les autres situations, Dieu la donnera, mais ma situation, elle est vraiment particulière. » Et là, peut-être ça va dépasser un tout petit peu Dieu. Okay? Même si on ne dira jamais cela, et peut-être même on ne l'admettrait jamais à haute voix, peut-être on peut être tenté à croire comme cela. Mais non, Jésus, il est Dieu. Il existe depuis toute éternité. Et de ce fait, il peut nous apporter la sagesse nécessaire dans toute situation. Toutes, n'importe laquelle, devant n'importe qui, Dieu, par Jésus-Christ, nous apporte la sagesse. Et avec cela, on peut se lever tous les matins en disant, « Seigneur, je ne sais pas comment je vais faire, mais je demande ta sagesse. Et je vais avancer aujourd'hui avec cette confiance que tu vas apporter la sagesse nécessaire pour agir. » Alors, ce premier mot, sagesse. Mais le deuxième mot, puissance. Regardez le verset 3. Déjà que Dieu, par Jésus-Christ, apporte la sagesse, c'est formidable. Mais il ne s'arrête pas là. Verset 3, regardez. Toutes choses ont été faites par elle. Alors par qui ? Ben, par la parole, par Jésus-Christ. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Cette puissance de Dieu par Jésus-Christ est à notre disposition. Nous avons tendance à limiter Dieu. Nous avons tendance à penser que, oui, théoriquement, Dieu, il a créé toutes choses, mais voilà, c'était juste un événement, et puis voilà. Mais lorsqu'on réfléchit un peu, on se dit, mais Dieu, il a parlé. Et nos paroles n'ont pas de pouvoir créateur. Moi, je ne peux pas dire que quelque chose existe et la chose existe. Même pas un atome, même pas une petite poussière, quoi que ce soit. Encore moins tout l'univers. Mais Dieu a parlé. Est-ce que ça vous effraie ? Dieu, il a parlé et le monde est venu à l'existence. Ce qui veut dire que Dieu peut parler et le monde peut disparaître. Et un jour, il le fera. Mais Dieu, il est tellement puissant que, verset 3, toutes choses ont été faites par elle. Et comme si Jean anticipe les protestations, les questions, les objections de tous les scientifiques, de tous ceux à travers tous les âges qui remettraient en doute cela, il dit « toutes choses ont été faites par elle ». C'est clair, n'est-ce pas ? Ce n'est pas ambigu. Qu'est-ce qui a été fait par la parole ? Tout. Mais non, pour Jean, ce n'est pas suffisant. Parce qu'il dit « rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle ». Donc, il confirme. Mais Jean, tu viens de dire « tout a été fait par elle », la parole. Alors, ça veut dire tout, n'est-ce pas ? Mais non, ce n'est pas assez. Jean veut faire bien comprendre qu'il n'y a aucune exception. Vous n'êtes pas l'exception, Dieu vous a créé. Toute personne dans votre vie n'est pas l'exception non plus. S'il y a quelqu'un dans votre vie, ben c'est parce que Dieu l'a créé. Et c'est le grand Dieu qui est puissant. Parce que, croyez-moi, il fallait une puissance énorme, divine. C'est seul Dieu qui pouvait créer ce monde. Et comme l'Épître aux Hébreux le souligne, et comme vous m'entendez dire assez souvent, non seulement Dieu a tout créé dans le passé, mais il continue de soutenir toute chose par sa parole puissante. Si Dieu arrêtait de soutenir le monde et de le garder en existence, cet univers disparaîtrait. Et c'est ce Dieu-là qui agit pour nous. Et Jésus est ce Dieu-là. Ces versets nous montrent que Dieu s'est servi de Jésus-Christ, donc de cette parole, pour créer toute chose. Et par cela, Jésus montre qu'il est Dieu lui-même. Et voilà pourquoi il est tellement grave qu'il y ait des groupes, des sectes, qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Parce que si Jésus n'est pas Dieu, ce monde ne devrait pas exister. Si Jésus n'est pas Dieu, le salut serait impossible. Si Jésus n'est pas Dieu, votre vie n'a aucun sens. Vous ne devriez même pas être là. Mais par contre, parce que Jésus est Dieu, et parce que sa puissance est à notre disposition, nous pouvons surmonter n'importe quelle difficulté. Encore une fois, pensez à la situation qui soit la plus difficile pour vous. Imaginez perdre quelque chose. Imaginez perdre votre voiture, votre maison. Imaginez perdre quelqu'un dans votre vie. Imaginez la pire situation que vous pouvez. Imaginez-vous la persécution. Imaginez que demain, le gouvernement ici en France dise... vous n'avez plus le droit de témoigner, vous n'avez plus le droit de vous réunir, vous n'avez plus le droit d'avoir la Bible, vous n'avez plus le droit, et là on aligne un ensemble de choses. Dieu est assez puissant par Jésus-Christ de nous donner la capacité de continuer de vivre une vie qui le glorifie, même dans cette situation-là. Jésus est Dieu lui-même. Et parce que Jésus est Dieu lui-même, parce qu'il s'est manifesté ici sur la terre, il nous montre l'exemple à suivre. Et il n'est pas tout simplement un idéal hors d'atteinte, où on dit « Ah, qu'est-ce que ce serait bien d'être comme lui ?» Mais bon, comme on ne peut pas, on se débat comme on peut, et puis voilà, Dieu, il comprend, il sait qu'on est humain et tout. Oui, Dieu comprend qu'on est humain, mais en même temps, il s'attend à ce que nous, dans chaque aspect de notre vie, on ressemble à Jésus-Christ. Et Dieu ne veut pas entendre d'excuses. N'essayons pas de venir devant Dieu en disant ben, « Dieu comprend, moi je ne pouvais pas, c'était trop dur. » Et Dieu va dire « Mais bien sûr, avec ta force, oui, c'est trop dur. C'est impossible même. Mais Dieu va dire « Avec ma force, tout est possible. » Philippiens chapitre 4. « Je puis tout par celui qui me fortifie, » dit Paul. Dans ces premiers versets de Jean, de l'évangile de Jean, Jean montre que la puissance de Dieu se manifeste en Jésus-Christ parce que Jésus est Dieu lui-même. S'il était autre chose que Dieu lui-même, cet évangile n'a aucun lieu d'être et notre vie est sans espérance. On est le plus malheureux des hommes, comme va dire Paul. Mais gloire à Dieu, la puissance de Dieu en Jésus-Christ est à notre disposition. Donc, sagesse, puissance, mais également, troisième mot, direction. Alors, c'est les versets 3 et 4 qui nous montrent ceci. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Direction. Jésus, par sa puissance, par sa sagesse, nous dirige dans la vie. Jésus est actif dans le monde et dans notre vie. Et il peut le faire parce qu'il contrôle toutes choses. Il existe depuis toute éternité. Il est Dieu lui-même, mais il contrôle toutes choses. Ce verset 3 est surprenant parce que Jésus a créé toutes choses, ce qui fait que chaque aspect de votre vie, bah, Jésus l'a planifié. Et vous allez dire, mais Robert, ça fait de nous des robots. Si tout est écrit à l'avance, si Jésus prépare toutes choses dans notre vie, bah, on n'a plus de libre arbitre, on n'a plus de choix, on se laisse glisser un peu dans cette vie. Ah non, 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 non. Dieu, par Jésus-Christ, est assez grand pour préparer toutes choses dans notre vie, tout en nous laissant le libre arbitre de faire nos propres choix. Hein? Si vous voulez débattre de cela après le culte, venez me voir et on établira un moment pour parler de cela. Mais ces deux choses sont enseignées par la Bible. Dieu contrôle toutes choses. Rien de ce qui se passe dans le monde est en dehors du contrôle de Dieu. Mais en même temps, Dieu nous laisse le choix de faire ce que nous voulons. Et quelque part, Dieu fait entrer nos choix, qu'ils soient bons ou mauvais, dans son plan pour accomplir le dessein que lui s'est fixé. Et si ça ne fait pas tourner la tête, je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut le faire. Et ça montre la grandeur de Dieu. Et lorsque je me rends compte que Jésus contrôle toutes choses et que dans ma vie, il n'y a pas de hasard. Là, je prends l'exemple parce que ça vient de se passer. Une voiture qui tombe en panne. Okay. Ça nous surprend. Un appareil qui se casse. Une nouvelle à laquelle on ne s'attendait pas du tout. Bah, ça surprend, ça déstabilise, ça bouleverse. Mais Dieu n'est jamais surpris. Et lorsque nous sommes surpris, lorsque nous n'avons pas de direction, lorsque nous, on se dit, mais où est-ce que je vais là? De revenir à ce passage et de dire, ben, le Dieu qui a créé toutes choses prépare chaque instant de ma vie et c'est en lui que je peux me confier. Jésus contrôle toutes choses parce qu'il les a créées. Dieu ne laisse rien au hasard. Et ce verset 3, encore une fois, souligne à la fin, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Rien dans l'univers existe sans que Jésus l'ait créé. Si quelque chose existe, c'est parce que Jésus l'a créé, l'a permis. Et ce verset 4, en elle, c'est-à-dire en cette parole, était la vie. La vie permet d'avancer. Si on est mort, on ne bouge pas, n'est-ce pas? Mais avec la vie, on avance. Et la vie était la lumière des hommes. Cette lumière qui éclaire. Cette lumière qui permet de ne pas prendre le mauvais chemin. Cette lumière qui permet de faire un pas après l'autre dans les ténèbres de ce monde. Cette lumière, c'est Jésus. Et cette lumière, elle est là tous les jours de notre vie. Elle est là, peu importe la situation. Elle est là, peu importe ce que les autres nous font. Elle est là, peu importe ce que nous faisons aux autres. Cette lumière qui dirige, qui éclaire, elle est accessible à tous les enfants de Dieu. Si vous êtes sauvés aujourd'hui, vous avez cette lumière. Ce n'est pas réservé jusqu'à quelques-uns. Non, cette lumière, elle est accessible à tous les enfants de Dieu. Et cette lumière, elle est aussi vie. Le matin, quand on se réveille, ou quand on est réveillé, et on pense à toute la journée devant nous, on pense aux responsabilités, on pense aux besoins, et on se dit, mais par où est-ce que je commence? Mille et une choses qui traversent l'esprit, et on voit tout ce qui a besoin d'être fait, et par où est-ce qu'on commence? Ben, si je commence avec ça, ben, je ne pourrai pas faire ceci, et si je fais ça, et on commence dans cette réflexion, et on se dit, mais là, je vais rester au lit, ça ne sert à rien que je me lève. Mais avec ce verset, nous voyons que Dieu donne par Jésus-Christ direction. La vie, c'est quelque chose qui bouge. La lumière permet d'agir. Et voilà ce que Dieu veut pour chacun de ses enfants. Et ça passe par Jésus-Christ. Et dans notre vie, est-ce que nous pouvons dire que notre vie ressemble à ces versets? Où la sagesse se voit? Où la puissance de Dieu se voit? Où il y a vraiment direction? On va dans une direction et là, on est sûr et certain que c'est là où Dieu veut que j'aille. Si c'est le cas, gloire à Dieu. Continuons. Si ce n'est pas le cas, si notre vie, on a l'impression un peu de tourner en rond, on a l'impression de ne pas faire grand-chose, on a l'impression même de prendre quelques pas en arrière, il faut se rendre compte que ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Et Dieu ne veut pas qu'on reste dans cette situation. Si nous sommes sauvés, nous sommes sauvés pour pouvoir avancer avec Dieu. Et si vous n'avancez pas, vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. La vie, c'est-à-dire quelque chose qui agit, qui est actif, c'est la volonté de Dieu. Si on ne manifeste pas cela, on est en dehors de sa volonté. Et ce qui est formidable, c'est que tout ceci est possible par Jésus-Christ. Et lorsque nous nous levons le matin, nos pensées doivent tout de suite aller vers Jésus. pour dire combien il est grand, pour demander sa sagesse, pour demander la puissance, parfois même juste de se lever du lit. Si Jésus, il était assez puissant pour créer le monde, croyez-moi, il est assez puissant pour vous aider à vous lever du lit. Hein. Et peut-être parfois, il faut exactement la même puissance. Hein. Dieu, par Jésus-Christ, peut nous aider à faire face à toute situation. Et lorsque nous nous levons et on ne sait pas du tout dans quelle direction aller, on ne sait pas quel choix faire, souvenons-nous que Jésus, la sagesse incarnée, celui qui a créé ce monde, il peut nous donner la direction. Il suffit de lui demander. Mais on va dire, j'ai demandé, j'ai fait l'expérience, Robert, j'ai demandé à Dieu et puis il ne m'a pas répondu. C'est faux. Dieu répond toujours. Sa réponse n'est pas toujours ce que nous attendons. Et peut-être on ne veut pas sa réponse, mais Dieu répond toujours. Alors, lorsque nous examinons notre vie, aujourd'hui, le 2 septembre, on est à la rentrée, on a toute la fin de l'année devant nous. L'année scolaire pour les jeunes, le travail pour les moins jeunes. Pour toutes nos activités que nous avons devant nous, nous avons besoin de Jésus. Ce n'est pas juste un nom comme ça. Ce n'est pas juste un personnage lointain dans l'histoire. Ce n'est pas juste une bonne idée, quelque chose de sympa. Non, c'est un personnage réel qui est là aujourd'hui. Et si nous sommes enfants de Dieu, aujourd'hui, ce qu'il veut, c'est produire cette vie en nous. Alors, quel choix allons-nous faire? Il y a le choix. Nous voyons ce que Dieu veut produire en nous. C'est ce qu'il a pour chacun de nous. Ce n'est pas juste réservé à quelques-uns, des initiés, des gens qui sont vraiment matures dans le Seigneur, qui ont fait beaucoup de progrès et tout. C'est pour tous les enfants de Dieu, sans exception. Mais il faut se tourner vers Jésus. Il faut lui demander. Il faut prier. Il faut le découvrir de plus en plus. Voilà pourquoi nous allons faire cette étude. Il faut se rendre compte de sa grandeur, de tout ce qu'il peut et il veut nous apporter. Et pour terminer, ce verset 5. Grand avertissement. Nous allons y revenir dans 2 semaines. La lumière luit dans les ténèbres. Elle chasse des ténèbres. Lorsqu'il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent pas exister. La lumière luit dans les ténèbres. Où est le problème? Les ténèbres ne l'ont point reçu. Alors, je comprends bien que ici, ce verset s'applique spécifiquement aux Juifs dans le contexte de Jésus-Christ et le rejet de lui. Mais cela montre que, par moment, nous pouvons refuser l'œuvre de Dieu dans notre vie. Ne soyons pas comme cela. Si nous le sommes, arrêtons. Commençons aujourd'hui à nous tourner continuellement vers Jésus, dans la prière, lui confier tout, demander son aide. Et puis, avançons avec l'espérance, avec cette conviction que lui, il agira. Et ce sera vu, ce sera manifeste, on ne pourra pas le cacher. Et toute la gloire lui reviendra. Alors voilà le choix que Dieu veut qu'on fasse. Sommes-nous prêts à le faire? Je prie que oui. Et nous allons passer quelques instants dans le silence pour demander l'aide de Dieu, pour nous remettre en question devant lui. Prenons quelques instants dans le silence devant Dieu et puis je prierai pour terminer. Oui, notre grand Dieu, nous sommes devant toi et nous reconnaissons notre faiblesse, nos manquements, notre hésitation, notre déviation de ce que toi tu as pour nous, ce que toi tu veux pour nous. Pardonne-nous, Seigneur, pour nos manquements, pour notre éloignement. Que nous ayons à chaque instant ce désir de nous tourner vers toi. Qu'il soit évident aujourd'hui, demain, dans les jours à venir, que nous nous tournons vers toi dès les premiers instants de chaque jour et tout au long de la journée pour chercher en toi tous ceux dont nous avons besoin. Que tu nous aides à jouir de cette vie que toi, tu as pour nous, chercher en toi sagesse, puissance et direction. Et Seigneur, que toute la gloire te revienne parce que c'est toi qui l'auras fait. Que notre vie soit un exemple pour stimuler d'autres. Que ton nom soit seul soit glorifié. En ton nom. Amen.